Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments que nous passons ensemble. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, je voudrais simplement vous faire les annonces courtement. Il n'y en a pas beaucoup. Et comme ça, on restera après sur le message de l'Évangile. Voilà, donc ça vous a été dit, le pasteur et son épouse sont absents aujourd'hui. Mais il y a la réunion cet après-midi à Montredon. Voilà. Il faut que je fasse attention. Voilà. Il y a les réunions habituelles, mardi soir. Et mardi soir, apparemment, il nous dit que M. Carayol donc, fera quelques retours sur le congrès pastoral, où il a passé 3 jours, je crois, cette semaine. Voilà. Il y a d'autres réunions, mercredi à Saint-Afrique, à 18h30, et jeudi, 15h, à Carmo. Voilà. Les annonces sont courtes. J'aimerais prier avec vous. Notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous, dans nos vies, nous te louons pour ce que tu suscites dans nos cœurs, Seigneur, pour cette grâce qui remplit nos vies, qui nous permet de te comprendre, de te connaître, Seigneur, et de marcher, de vivre pour toi, Seigneur, dans l'objectif de te rencontrer un jour. Que ton nom est grand, Seigneur, nous l'avons chanté ce matin, et nous te bénissons, te prions de toucher nos cœurs ce matin, Seigneur. Je te prie de poser ta main sur moi et de m'aider, Seigneur, en toutes choses, à être cet outil entre tes mains. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Je vous invite à faire une lecture dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. La première épître est au chapitre 5. Cette pensée, je l'ai depuis quelque temps sur mon cœur. Et j'ai été surpris ces derniers temps d'entendre certaines choses que le pasteur a partagées avec nous, qu'il a abordées un mardi soir, et puis le samedi à la réunion d'hommes aussi, où nous étions quelques-uns. Et peut-être pour vous qui étiez là, vous allez voir que certaines choses ont déjà été partagé, mais je rends grâce au Seigneur que nous puissions le faire ce matin. C'était pour moi une certitude dans mon cœur que je devais partager cela avec vous. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte hier que je ne vais pas pouvoir tout partager avec vous ce matin. Donc, il y a beaucoup plus que cela et on aura l'occasion de continuer un peu plus tard. Donc, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Vous pouvez tourner une page en avant, dans le chapitre 3, toujours, de la même lettre, chapitre 3 et verset 12. L'apôtre dit ceci, « Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. » Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen. L'apôtre Paul insiste, on pourrait dire presque lourdement, dans cette épître et dans ce mot sur lequel je voudrais m'arrêter, cette expression plutôt, la première que nous avons lue, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Ce mot irréprochable, en fait, sa signification dans le grec, c'est celle-ci, c'est quelque chose un état innocent qui ne mérite pas de censure. C'est-à-dire quelque chose qui est pur, qui n'a pas à être censuré, qui n'a pas à être repris. Alors on voit tout de suite que la barre, quand même, elle est relativement haute, pour vous comme pour moi, pour tout le monde. Mais c'est la prière de Paul. Et nous avons chanté tout à l'heure qu'il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Nous avons chanté qu'il est descendu de son ciel de pureté. Et notre espérance en nous, notre volonté, c'est notre assurance, c'est de le rencontrer un jour. Et c'est pourquoi je comprends ce que dit Paul dans cette exhortation aux Thessaloniciens, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables. Dieu est un. Nous savons qu'il y a en lui, c'est un mystère la Trinité. Il est un, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et pour nous, il n'est pas question de parler de Trinité, certainement pas. C'est dans un autre registre, mais nous sommes faits ainsi. Nous avons une âme, un esprit et un corps. Et parfois, et c'est vrai, c'est ce que soulignait notre frère il y a peu de temps, c'est vrai que ça peut être difficile, de différencier l'âme et l'esprit. Par exemple, dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul, qui traite un sujet particulier, je ne vais pas m'attarder dessus, mais il va dire ceci, que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il parle d'une personne en particulier, j'y reviendrai plus tard. Que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, ce verset que nous avions lu la dernière fois, que je vous avais partagé la parole de Dieu, il est parlé de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc vous voyez, une fois il est parlé de l'esprit, que l'esprit soit sauvé, une autre fois il est dit de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs, enfin en tout cas je me faisais cette réflexion, que toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12, il est dit que la parole de Dieu est pénétrante. Et c'est cette épée à double tranchant qui est capable de partager l'âme et l'esprit. Parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Mais on s'accorde généralement pour dire que l'âme, c'est le siège des affections. L'âme, c'est le siège des désirs, des émotions, de la volonté aussi, des sentiments. Et j'aimerais vous amener dans quelques versets justement des évangiles et principalement de l'évangile de Matthieu, mais je vais vous les citer. Je peux vous donner, si vous voulez, la référence, si vous notez. Donc des paroles qui sont données par le Seigneur Jésus lui-même. Il dira par exemple, « Venez à moi » dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 29. J'ai mis un marque-page, donc je vais vous le lire. Il dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Donc, on s'aperçoit que le Seigneur nous parle de ce repos, en fait, de cette paix que nous pouvons avoir au-dedans de nous, la paix de notre âme. Et cependant, le même Seigneur, le même Seigneur souverain, il va dire un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, au verset 38, alors qu'il se trouve dans le jardin de Gethsémané, et que malheureusement, il n'arrive pas à trouver le réconfort qu'il voudrait auprès de ses amis, il va leur dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Donc, vous voyez, cette âme, elle peut être le siège de la paix, du repos parfait, mais aussi de la tristesse, de l'angoisse. Toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, le Seigneur va nous dire « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Et là, on s'aperçoit que dans notre âme, il peut y avoir ce désir profond. Mais quel est le désir le plus profond de notre âme ? Est-ce que c'est de gagner ? Est-ce que c'est d'amasser ? Est-ce que c'est d'évoluer le plus haut possible dans la carrière ? Est-ce que c'est d'arriver à être connu ? Arriver à tout un tas de choses qui font qu'on s'aperçoit que le monde est souvent dans cette optique. Le confort matériel, c'est bien le confort, on reconnaît que c'est bien. Mais quelle est vraiment la priorité dans ma vie ? Est-ce que c'est de gagner Christ ? Et surtout, de ne pas perdre mon âme. Et puis, le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Marc, il va reprendre ce commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Donc, l'âme, c'est vraiment le siège de ses sentiments, de l'amour. Mais ça peut être le siège aussi du contraire, de la haine, de ce qui est... de sentiments qu'on ne voudrait pas avoir parfois dans notre cœur. Et par exemple, je vais vous le lire dans la version que j'ai. Dans l'évangile de Luc, le Seigneur Jésus va dire au chapitre 14, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il est écrit ici, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer. » Mais dans les versions plus anciennes, il est écrit « Si quelqu'un ne hait pas » du verbe « haïr » son père, sa mère. Et nous savons que le Seigneur ne nous demande pas de haïr nos semblables, nos familles, et même, il nous dit d'aimer nos ennemis. Mais je préfère le souligner parce que je ne sais pas quelle est la version que vous avez dans les mains. Je voudrais faire une petite parenthèse. Tu peux me donner un peu de retour, s'il te plaît, Jérémy, parce que je force sur ma voix et bientôt je ne vais plus pouvoir parler. Merci. Dans ce passage que je viens de lire, quand le Seigneur Jésus dit qu'on peut lui préférer même notre propre vie, c'est exactement le mot. C'est le même mot, le même mot que le mot « âme » qui est traduit ailleurs dans ce que nous avons lu, « la vie ». C'est exactement le même mot. Donc nous voyons que cette vie qui est en nous, cette âme qui est en nous, c'est quelque chose de particulier parce que c'est le siège de beaucoup de sentiments qui peuvent entrer en nous, qui peuvent être là. Et quand Paul va dire aux Thessaloniciens, que votre âme, donc, soit conservée irrépréhensible. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ? L'apôtre Paul, je pense qu'il veut dire que notre âme peut passer par tous ces états. Elle peut passer par ce que nous avons vu, par des moments de paix extraordinaire, mais par des moments aussi de tristesse extraordinaire, des moments de détresse. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la croix, il a quand même dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est quand même le Fils de Dieu qui parle. C'est vrai qu'il est pleinement homme, mais il est dans une telle détresse et dans une telle souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il est séparé de la présence de son Père. Et je peux passer donc par ces moments, je peux passer des moments difficiles dans ma vie, mais je peux me relever. Je peux redresser la barre. Je peux garder mon espérance intacte parce que c'est le Seigneur qui veille sur moi. Et je vous invite ce matin, si vous êtes dans une situation comme celle-là difficile, ne désespérez pas. ne vous laissez pas culpabiliser par l'adversaire. Parce que si votre désir est celui, vraiment, si votre attachement est en Christ, alors le Seigneur permet qu'on passe parfois par ces difficultés. Mais quand notre attachement est en lui, si même dans ces moments, nous savons où se trouve le véritable attachement de notre cœur, de notre âme, alors nous sommes sur la bonne voie. Notre âme, le Seigneur la considère irréprochable. Que son nom soit béni. C'est lui qui le fait en nous. Je vais y revenir tout à l'heure. L'esprit, on dit qu'il est cognitif. C'est dans la même famille que le mot connaissance. C'est-à-dire que l'esprit, il est capable de réflexion, d'analyse, de raisonnement. Cet esprit que Dieu nous a donné, on parle de l'esprit de l'homme, là, hein, de notre esprit à nous, pas de l'esprit de Dieu. Cet esprit que Dieu nous a donné, il est capable d'avoir conscience de Dieu et de communiquer avec lui. Et cette conscience, l'apôtre Paul dira à Timothée, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et pourquoi ont-ils fait naufrage par rapport à la foi ? Je voudrais simplement vous donner la définition en grec de ce mot « conscience ». C'est cette faculté de distinguer entre ce qui est moralement bon et ce qui est moralement mauvais. Là, je suis déjà en train de me rendre compte, et je vais aller plus loin, ou plutôt la parole de Dieu va nous amener plus loin, que nous ne sommes pas dans le discours du monde actuel, n'est-ce pas ? Mais cette conscience-là nous permet de distinguer entre le bien et le mal. Et par exemple, je vais, de la même manière, vous savez, j'aurais pu prendre des dizaines de versets dans la parole de Dieu, il y en a plein, hein. Mais l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, par exemple, dans sa deuxième lettre au chapitre 4, il va leur dire, nous n'avons point envers vous une conduite astucieuse. Ça, c'est du domaine de l'esprit qui peut réfléchir, qui peut analyser, mais qui peut manipuler, qui peut essayer de contourner les choses. Et nous savons de quoi nous sommes faits, et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et puis, dans l'évangile de Luc, le Seigneur, au chapitre 18, il va donner une parabole spécifique, en vue des personnes qui se persuadent qu'elles sont justes et qui font aucun cas des autres, qui méprisent les autres en fait. Et ça aussi, c'est le domaine de notre esprit, se persuader. Et vous savez, ça c'est facile à faire. C'est facile à faire non seulement dans une famille de chair, mais aussi c'est facile à faire dans la famille de l'Église. C'est facile à faire, et c'est tellement commun dans le monde évangélique, d'une tendance à une autre, de se persuader que nous, on est dans la vérité et que l'autre, il n'y est pas. Ça, c'est du domaine de l'esprit. Regardez encore une fois ce qui se passe lorsque Jésus se retrouve devant des hommes qui vont lui amener une femme surprise, en flagrant délit d'adultère. Et ils vont lui dire, « Seigneur, tu sais que la loi dit que cette femme doit être lapidée, alors toi, qu'est-ce que tu dis ?» Et vous savez comme moi que le Seigneur ne répond pas. Il se baisse par terre et il écrit. Certainement qu'il doit y avoir comme du sable, de la terre. Il va écrire par terre. Et on ne sait pas ce qu'il a écrit. Mais je crois que ce qu'il a écrit, c'était quand même quelque chose d'important, qui venait de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que tous ces hommes qui étaient là et qui accusaient cette femme, et qui avaient peut-être déjà la pierre dans la main, ils sont tous partis, accusés dans leur conscience. Alléluia. La conscience, l'esprit que Dieu nous a donné, cet esprit qui est capable de communiquer avec Dieu, mais de recevoir ce que Dieu veut nous dire aussi. Et puis, un dernier exemple, parce que je vous dis, il y en a tellement dans Timothée, mais aussi dans Tite, et ce premier chapitre de Tite. L'apôtre Paul recommande à Tite que les chrétiens ne s'attachent pas à des fables et à des commandements d'hommes. Et je crois que nous sommes dans un siècle, vous savez, ça a toujours existé. Alors il y a foison, ça foisonne tout ça. Et on a besoin que notre esprit... Parce que le Seigneur, je fais une parenthèse, le Seigneur ne fait pas de nous des gens stupides. Il nous permet de réfléchir et de chercher, de comprendre où est la vérité. Et la vérité, bien sûr, elle se trouve dans la parole de Dieu. Et il ne veut pas qu'on s'attache à des fables, il veut qu'on s'attache à la vérité. Alléluia. Et je me dis, alors, l'apôtre Paul a dit, un esprit, que votre esprit soit conservé irréprochable. C'est quoi un esprit irréprochable? Je crois que c'est un esprit. Je parle de l'esprit de l'homme, mais toujours, hein, l'esprit humain. C'est l'esprit qui se remet en question. C'est l'esprit qui se laisse remettre en question par l'esprit de Dieu. Ça, c'est important. C'est l'esprit de l'homme, de la femme qui est sensible à l'esprit de Dieu qui vit en moi. Alléluia. Qui n'est pas prêt à épouser tout vent de doctrine, comme nous dit ailleurs la parole de Dieu. Un esprit qui est droit. Vous savez, dans le psaume 51, c'est le psaume du repentir de David. David, c'est quand même l'homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, David. L'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, dans son esprit, il a été loin, très loin. Il a manigancé pour que son général, ou je ne sais pas comment on s'est dit, mais oui, peut-être son général d'armée, soit tué à la guerre pour qu'il puisse s'emparer de sa femme. Ça, c'est... Il a réfléchi, David. C'est grave ce qu'il a fait. C'est l'homme, le cœur, selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David s'est laissé remettre en question par la parole de Nathan, le prophète. Et voyez, on peut s'égarer de bien des manières. Peut-être ne pas aller aussi loin que David, je le souhaite, bien sûr, et nous le souhaitons. Mais si notre esprit reste malléable, sensible à l'Esprit de Dieu, alors notre esprit sera conservé irréprochable jusqu'au jour du Seigneur. Et David a dit dans ce psaume 51, « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et dans la version d'Arbi, il est dit « un esprit droit ». Un esprit droit, vrai. Alléluia. Je voudrais maintenant entrer dans la troisième partie de ce qui est écrit ici, et je crois que ça, c'est là que ce sera la partie la plus longue, et j'ai réalisé que je ne pourrais pas terminer aujourd'hui avec vous. C'est une partie qui est beaucoup plus pratique, peut-être, oui. En tout cas, quand il est question du corps, ben, on vient de le voir avec l'exemple de David. Bien sûr, le corps, c'est dans la pratique, mais c'est parfois ce que l'esprit a fomenté, ce qu'il a réfléchi, ce qu'il a décidé de faire. Et le Seigneur a vraiment appuyé dans mon cœur cela parce que on a besoin, et pour moi-même, j'en suis convaincu, que la foi ne reste pas une théorie dans nos vies. Votre âme, je peux essayer de vous regarder, là, de croiser votre regard. Je ne vois pas votre âme, je ne vois pas votre esprit. Mais vous, je vous vois. Votre corps, c'est ce que je vois. C'est ce que vous voyez de moi. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas simplement l'esprit, ce n'est pas simplement l'âme, mais c'est le corps qui doit être conservé, irréprochable, pour le jour du Seigneur. Et aujourd'hui, le constat est là. Nous vivons dans une société, au milieu d'une société décadente. Il n'y a rien de nouveau. On le voit déjà dans la parole de Dieu. Et selon les époques, selon les cultures, selon les régions du monde, il y a eu des sociétés décadentes. Et nous sommes aujourd'hui dans une société qui est décadente. Et je vais aborder quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nous sommes dans une société qui se dévêt, qui se déshabille. Une mode qui exacerbe les sens, qui pousse à la faute. Et la foule se précipite sur cette voie de l'immoralité. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que notre corps soit conservé irréprochable. C'est important. C'est important et je comprends que ce que je vous dis ce matin, plutôt ce que la parole de Dieu me dit, ah, c'est pas du tout dans l'air du temps. C'est contraire. Mais c'est la parole de Dieu. Vous voulez prendre avec moi ce que Paul dit aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6. Et au verset 19. Je sais que vous connaissez ce passage pour la plupart. Vous le connaissez très bien. Je vais le lire dans la version courante et je le lirai dans une autre en suivant. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et je voudrais vous le lire donc dans cette version français courant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas à vous-même, Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Utilisez donc votre corps pour la gloire de Dieu. Amen. Rien que sur ces deux versets, on aurait pu parler toute la matinée. Tellement c'est riche. Il y a un car nous avons été rachetés et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne nous appartenons pas. C'est étonnant ça, moi ça m'étonne ça. Tout à l'heure, quelqu'un dans sa prière parlait de paradoxe. Mais moi c'est quelque chose qui m'étonne parce que si nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, cependant, nous ne sommes contraints en quoi que ce soit. Le Seigneur ne nous contraint pas. En quoi que ce soit, il nous a laissés libres. Nous sommes libres. Et le choix qui est le nôtre, qui est laissé à notre compréhension, c'est celui de la grâce extraordinaire que Dieu nous a faite. En nous donnant le Saint-Esprit. En le faisant habiter en nous. Mais aussi, la compréhension du devoir qui découle de cette grâce. Parce que nous aimons le Seigneur. Et parce que nous avons dit tout à l'heure et nous l'avons proclamé que le Seigneur est dans un ciel de pureté et que notre espérance, c'est de le rencontrer. Alors, par rapport à ce que je soulignais et la génération dans laquelle nous vivons, j'aimerais vous amener courtement, vous pouvez le chercher si vous voulez, c'est la Genèse, le premier livre de la Bible, et puis on ira dans l'Apocalypse, mais je vous le citerai. Le premier livre de la Bible, la Genèse au chapitre 3 et au verset 8. Ou plutôt au chapitre 2, oui. Pardon. Au chapitre 2 et au verset 25, il est dit ceci, « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Et puis, il y a eu la désobéissance. Et dans le chapitre 3 et au verset 7, il est dit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Et un peu plus loin, au verset 21 du chapitre 3. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. La parole de Dieu nous dit que Adam et Ève, quand ils ont été créés, n'avaient point honte de leur nudité. Mais il y a eu la désobéissance, il y a eu le péché, et cette conscience est venue en eux. Cette conscience est la parole de Dieu, et c'est là que je veux appuyer ce matin. Il y a toute une symbolique sur laquelle je ne peux pas m'arrêter parce que ça serait trop long. Mais il est quand même dit que c'est l'Éternel Dieu, c'est lui qui les a revêtus personnellement. Dieu l'a fait d'habits de peau. Je vous répète, je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Mais Dieu a jugé bon, non seulement bon, mais utile. Parce que la conscience était venue dans Adam et Ève, de les revêtir. Pourquoi ? Parce que le péché était entré dans le monde. Et que ça a été très court, c'est sûr, mais c'était la fin de l'innocence. C'était la fin. Le péché était entré dans le monde et avec lui, la convoitise était née. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a jugé bon et utile de revêtir Adam et Ève d'habits. Et puis, dans l'Apocalypse, vous connaissez certainement comme moi cette lettre à Laodicée, où le Seigneur va dire, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Alors je sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de honte. Je sais qu'aujourd'hui, je vis dans une société où on n'a plus honte de rien. Mais ça, ce n'est pas ce que me dit la parole de Dieu. Et je sais aussi que, dans ce passage en particulier, il est question de la nudité, de la pauvreté spirituelle. Mais pour expliquer cela, le Seigneur va prendre soin de prendre l'image de ce qui est corporel, de ce qui est terrestre. Alors, je crois que le Seigneur nous appelle à glorifier son nom, pas que théoriquement, mais parce que nous sommes, parce que nous montrons aux autres. Je voudrais, j'ai failli sauter ce petit passage qui est tellement important, entre la Genèse et l'Apocalypse. Il y a ce moment de la crucifixion, ce moment de la croix que nous avons encore partagé tout à l'heure, célébré par la Sainte Cène. Et il y a quelque chose que... Je ne l'ai pas souvent réalisé. Je ne me suis pas arrêté dessus. Nous savons que le Seigneur a pris nos péchés. Nous savons qu'il est mort, portant le poids de nos iniquités et qu'il nous donne la vie. Alléluia, et c'est extraordinaire. Et on a dit tout à l'heure qu'on était émerveillés, qu'on ne comprend pas tout ça. C'est tellement riche, c'est tellement grand. Mais regardez jusqu'où le Seigneur est allé. La honte, on le chante parfois dans des cantiques, on le dit. Il a pris notre honte. Mais il a pris la honte vraiment, au sens réel, humain. La parole de Dieu nous dit qu'on lui a ôté ses vêtements. On lui a remis. Quand on parcourt les évangiles, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs phases. En parcourant les évangiles, parce que tout n'est pas dit de la même manière dans un évangile. Mais on a ôté ses vêtements, on lui a mis un manteau de pourpre, et puis après on a enlevé ce manteau, on lui a remis ses vêtements pour qu'il porte sa croix jusqu'au calvaire. Et là, de nouveau, on s'est partagé ses vêtements, nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est allé jusque-là. Non seulement il a pris la condamnation de Dieu, et tout à l'heure, quand on parlait de cette âme qui était triste jusqu'à la mort, le Seigneur a vécu cette tristesse terrible, cette détresse d'être séparé du Père, mais il a vécu la honte humaine, il l'a vécu pour nous. Et il y a deux mots que le Saint-Esprit a rappelés à mon cœur, deux mots que l'on ne prononce pas aujourd'hui, bien sûr, mais ce sont des mots que l'on trouve dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a subi l'opprobre. L'opprobre, c'est un mot, j'ai été surpris, que l'on retrouve 77 fois dans la Bible. Beaucoup plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et je voudrais vous donner la définition de ce mot. Pas la définition biblique, la définition du mot opprobre. C'est qui humilie à l'extrême publiquement. Qui est un sujet de honte. Le Seigneur, pour nous, a subi cette honte. Il était sur cette croix, le dos lacéré, mais pratiquement nu. Un linge autour de la taille, certainement. Lui, le Fils de Dieu, a étalé jusque-là. Il a subi cette honte pour nous, mes amis. Et il a subi aussi cet autre mot que l'on trouve dans la parole de Dieu, beaucoup moins souvent, 23 fois, apparemment, d'après ce que j'ai trouvé dans la Bible sur Internet, l'ignominie. L'ignominie. Nous trouvons cela dans l'Épître aux Hébreux, ces deux mots, principalement. L'ignominie, c'est le déshonneur extrême causé par un outrage public, une peine. Et comme exemple, il est donné la condamnation. Jésus a subi cette condamnation dans un déshonneur extrême. Alors, attention. Attention, je ne suis pas en train de vous dire ce matin qu'il nous faut nous déguiser en chrétiens. J'ai fait exprès de prendre ce mot parce qu'il est fort. Enfin, pour moi, il est fort en tout cas. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller au bazar du coin, là où on achète des costumes pour le carnaval, et pour dire « je voudrais un déguisement de chrétien pour pouvoir aller à l'église, je veux me déguiser en chrétien. » Ah non, non. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous êtes, oui certainement, vous avez entendu parler qu'il y a une expérimentation actuellement en France, dans les écoles primaires je crois, où l'on expérimente la tenue unique. Vous savez, pour les élèves, ça fait un moment qu'on entend parler de ça. Je crois que ça existe en Angleterre, il me semble. Hein. Et on l'expérimente en France. Et je ne suis pas en train de vous dire que je ne porte pas aucun jugement là-dessus, je le prends comme exemple, n'est-ce pas ? Je ne suis pas en train de vous dire que pour venir à l'église, il y a une tenue, il y a la tenue du chrétien, il y a la tenue du disciple du Seigneur à porter. Et puis, non, parce que si je comprends ça, et je garde l'exemple que je prends, lorsque je sors de l'école, lorsque l'enfant va sortir de l'école et qu'il va rentrer chez lui, il va enlever cette tenue de l'école et puis il va mettre autre chose. Et parce que ça serait un déguisement pour nous. Et c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Voyez ce que dit le Seigneur aux pharisiens dans l'évangile de Matthieu. Je vais vous le lire, ne le cherchez pas. Je l'ai repéré dans ma Bible. Au chapitre 23. Malheur à vous. Ah, il y en a tellement que je ne suis pas au bon verset. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. Le travail que fait le Seigneur dans notre cœur, ce n'est pas un travail de façade, vous le savez, c'est un travail intérieur. Et tout à l'heure, c'est pour ça que c'était important de commencer par l'esprit, parce que quand mon esprit est en relation avec l'esprit de Dieu, alors ce que je suis en mon âme et en mon esprit, je veux l'être aussi dans mon corps. Parce que mon corps, c'est ce que je montre aux autres. ma façon d'être, ma façon de me comporter, la pureté que le Seigneur a mise dans mon cœur, elle est sur moi, enfant de Dieu. C'est ça que je dois comprendre. Je ne sais pas si vous avez gardé votre Bible ouverte dans l'Épître aux Thessaloniciens. Et j'y reviendrai la prochaine fois sur ce passage particulier, au chapitre 4 et au verset 3 et 4. L'apôtre Paul va dire ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne vais pas m'arrêter vraiment aujourd'hui là-dessus, mais regardez ce qui est dit un peu plus loin, si vous êtes toujours avec la Bible ouverte, au verset 8. « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Et je voudrais simplement attirer votre attention sur ce que dit Paul ici dans ce verset. Quand il dit « que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté ». En fait, le mot « corps » ici, que Paul emploie, vous pouvez le trouver dans la version Darby directement ou dans d'autres versions plus anciennes, ce mot-là, c'est le mot « vase ». Littéralement, Paul dit ceci, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que chacun de vous sache posséder son vase dans la sainteté et l'honnêteté. » Et à plusieurs reprises dans ses écrits, Paul va employer cette métaphore grecque. L'apôtre Pierre va l'employer aussi. Et pourquoi il emploie cela ? Parce que les Grecs croyaient que l'âme habitait temporairement dans le corps. Et Paul va faire exprès d'employer ce mot. C'est un vase. Il compare le corps que nous avons, il le compare à un vase. Et c'est pourquoi je suis allé jusqu'à la fin de ce verset 8, car Dieu vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le vase que nous sommes contient le Saint-Esprit. Le vase que je suis en tant qu'enfant de Dieu contient l'Esprit Saint. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais c'est pour cette raison que je veux obéir, que je veux comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que aujourd'hui quand même, je suis chrétien. Aujourd'hui, j'ai pris le baptême. Je suis dans un mouvement. Alors, je ne peux pas me permettre, je dois me comporter comme ça, je dois m'habiller ainsi. Non, ce n'est pas ce registre. Ce n'est pas du tout dans ce registre. C'est parce que je comprends que le Seigneur m'a sanctifié au-dedans de moi. Mais ça ne reste pas théorique. Et ce vase que je suis, je veux qu'il soit pur. Parce qu'il contient quelque chose d'extraordinaire. Il contient l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'ai besoin de comprendre cela. Moi comme vous, j'ai besoin de le comprendre et de le vivre. Et je vais terminer avec cela, avec cette métaphore que l'apôtre Paul emploie. Et il en parle dans l'épître qu'il écrit aux Romains, dans le chapitre 9, et au verset 23, 24. Il nous dit que, au verset 22, oui, mais je vais pas vous les lire, je vais vous les citer, les prendre en fait. Il nous dit que Dieu, en fait, nous a supportés comme des vases de colère formés pour la perdition. Nous étions des vases de colère. La colère de Dieu demeurait sur nous, mais il a fait de nous des vases de miséricorde. Alléluia! Le Seigneur nous a transformés, il nous a changés. Il a fait de nous des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alléluia! Et même si j'ai conscience que ce corps mortel dans lequel je me trouve va être un jour transformé, miraculeusement, en un instant, le Seigneur va transformer ce corps mortel en un corps immortel, incorruptible. Et ce n'est pas pour ça que je vais attendre le dernier moment. Mais au long de ma vie, je veux glorifier le Seigneur comme cela m'est demandé. Je veux le glorifier de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon corps. Ce vase que je suis contient ce qu'il y a de plus précieux, l'Esprit Saint. Voilà la raison de qui je suis et de l'image que je veux donner au monde. Pas d'une façade, mais de la vérité profonde qui est en moi. Alléluia ! C'est ça que le Seigneur veut nous dire par la bouche de Paul aujourd'hui. Et je termine, je vous promets, je termine. L'apôtre Paul, toujours, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, va dire ceci. Ah, je vais le lire, comme ça, c'est, je ne dirai pas de travers. De Timothée, chapitre 2 et verset 20. Dans une grande maison où il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Il faut de tout dans la maison. Sous votre évier, et vous avez peut-être une bassine avec une serpillière ou dans un placard ou au cellier. C'est utile, ce récipient. Il est utile, bien sûr. Mais ce qui est encore mieux, c'est ce beau vase que vous mettez sur la table avec des fleurs magnifiques qui embaument la pièce ou cette belle carafe dans laquelle vous allez servir le vin ou l'eau à vos invités. Le Seigneur nous invite. Il nous invite à être ce vase d'honneur. Le vase, la bassine que j'ai citée, ce seau peut-être qui sert à laver le sol, il est utile. C'est un vase utile. Mais ce n'est pas un vase d'honneur. Et le Seigneur nous invite à tous à être des vases d'honneur. Alléluia. J'espère que nous avons compris ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Je le crois. Je crois que ce que nous voulons être, ce n'est pas pour paraître. Ce n'est pas pour être comme ces pharisiens hypocrites. Mais nous voulons vraiment refléter la gloire de Dieu dans un monde qui a tant besoin de la voir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour qui tu es dans nos vies. Ô Seigneur, notre Dieu. Merci pour l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, séparer les choses. Nous sommes un devant toi et nous voulons que tu nous aides. Que tu nous aides, Seigneur, à glorifier ton Saint-Nom. Et qu'ainsi, nous puissions arriver, par ta grâce, à ce jour glorieux où tu nous diras, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, c'est ce que nous attendons. Et notre vision, notre but, c'est celui-là, Seigneur, de te rencontrer. Alors que ton nom soit béni ce matin. Et merci encore de tout notre cœur. Amen. Amen.